Bonjour chers auditeurs, Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de l'écho de ma commune, subventionnée par le conseil départemental d'Eure-et-Loire, avec le maire de Dreux, Gérard Hamel, qui est aussi le président du Grand Dreux, président de l'agglomération drouaise et de ses 78 communes, villes et villages. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Heureuse que tu nous aies rejointe dans ce studio et nous allons faire la suite, nous allons enregistrer la suite de notre émission de la semaine dernière qui va être très dense aussi parce qu'on a encore des tas de sujets à aborder. Moult sujets,
eh oui,
dont des
beaucoup.
Sujets qui fâchent d'ailleurs.
Pour certains, oui.
Est-ce que tu veux qu'on commence par un sujet qui fâche ?
Bah, allons-y.
Allez, l'exaspération des handicapés et des personnes à mobilité réduite par rapport à l'accès à la nouvelle gare de Dreux.
Ça, c'est un vrai sujet qui fâche énormément de monde. Pour moderniser, réutiliser, rendre attractif notre gare, sa fréquentation de plus en plus importante, la ville de Dreux a investi énormément.
Combien ?
Pour l'instant, on va investir au total sur l'ensemble du quartier gare, la ville de Dreux seule, je dis de mémoire, 14 ou 15 millions. Le passage souterrain sous la gare, c'est la ville de Dreux qui le prend en charge. C'est pas la SNCF. La SNCF, zéro, n'a rien investi. C'est nous, voulons moderniser nos équipements autour de la gare, attirer des nouveaux business et choses là, on prend en charge. Entre la ville et l'agglo.
SNCF, Gérard, c'est l'État, non?
Ah ben c'est l'État, oui, bien sûr.
Complètement.
C'est l'État, c'est national. Et là, aujourd'hui, le sujet qui fâche, c'est l'accès handicapé à la gare. Nous avons fait, nous, tous les travaux. Il manque deux ascenseurs pour avoir accès aux deux quais de la gare. Et la SNCF me répond, depuis que nous avons fait les travaux, depuis plus de deux ans maintenant, je dis, attendez, c'est pas possible que vous pouvez pas laisser comme ça. Nous n'avons pas d'argent. On n'a pas d'argent au niveau régional. L'argent est dépensé depuis qu'il y a eu cette catastrophe, je crois que c'est Bretigny. Tout est fait sur la sécurisation, l'entretien de nos voies, et on n'a rien de prévu, aucun équipement qui est prévu financièrement, et on me donne l'année 2019, je ne sais pas quand, l'année 2019, quand dans l'année, j'en sais rien, pour qu'on ait enfin ces ascenseurs. Alors, régulièrement...
Est-ce que ça n'est pas tout simplement pour élargir les voies parce que les nouveaux trains ne passaient pas ?
Non. À la gare de Dreux, ça marche. Le problème, les trains pour nous, ils sont de gabarits, les voies, etc. Ça marche. Le problème, c'est qu'ils n'ont vraiment pas l'argent pour rentrer dans ce qui devrait être une obligation. On l'oblige en fait... à nous, les communes. Tout ce qui est accessibilité et notamment handicapé...
Mais c'est une loi, ça.
C'est une loi. Alors, qui donne aux collectivités... Moi, j'ai beaucoup de bâtiments sur la ville de Dreux qui donnent aux collectivités jusqu'en 2019 pour se mettre en règle avec cette loi. En 2019, théoriquement, tout le monde devrait être aux normes d'accessibilité pour les handicapés ou les personnes à mobilité réduite. C'est pourquoi la SNCF me dit « nous, pour l'instant, on n'a pas les moyens, on ne peut pas faire ».
Autrement dit, malgré tous ces travaux, ils ont fait aussi des tas de travaux dans le bâtiment même de la gare, l'État ne respecte pas lui-même ses propres lois.
Alors, il les respectera dans le temps, mais en attendant... Enfin, j'espère qu'il les respectera dans le temps. S'ils m'ont donné 2019, c'est pas par hasard, puisque la loi sur le handicap prévoit qu'on se mette tous aux normes pour 2019.
Le 31 décembre 2019.
Mais, alors, jusqu'au 31 décembre minuit, voilà. Non, c'est scandaleux. Et aujourd'hui, l'usager ne sait pas de qui ça dépend. Et moi, je me fais, engueuler.
Les gens râlent.
En permanence, à juste titre. Il me dit, mais monsieur le maire, comment on peut faire ça? Alors, je suis désolé. Moi, j'interpelle régulièrement la SNCF. J'ai des réunions régulières avec eux. Je les presse d'avancer la date. J'ai toujours la même réponse depuis maintenant plus de deux ans.
Et tu presses qui? Est-ce qu'il y a un directeur, un PDG?
Il y a des directeurs.
Des directeurs.
Je sais pas où
ce
sont
les. Ça ne facilite pas les choses, bien entendu.
Ben non, ils sont SNCF, c'est une organisation très compliquée.
Ils se repassent.
Il y a des directions régionales. Quand ils viennent ici, j'ai trois directeurs qui viennent me voir avec leur staff. Donc il y a beaucoup de monde autour de la table. Mais ces directeurs me disent, nous, c'est ce qui est difficile avec la SNCF. Je vais pas les enfoncer. Je travaille avec eux, mais on sait pas qui décide. Parce que les directeurs régionaux me disent, monsieur, moi je décide en fonction des éléments qu'on me donne, ou en fonction des moyens qu'on me donne. Et donc quand je leur parle et que je mets la pression pour qu'ils obtiennent des moyens pour mettre ces ascenseurs, ils me disent, vous avez raison, monsieur le maire, vous avez raison, mais pour l'instant, on m'a pas donné les moyens.
Il y a un truc très simple, Gérard. Quand ils sont dans ton bureau, tu leur fournis deux valises énormes et tu leur demandes d'aller prendre le train. Non, mais il faudrait quand même les mettre devant au pied du mur, ces gens-là.
Non, alors, je sais qu'il y a des collègues, ça sous-entend peut-être que je suis trop gentil, mais parce qu'il y a des collègues qui réagissent beaucoup plus violemment à des lacunes, à des inerties d'État qui deviennent insupportables. Alors, est-ce que je devrais un jour faire bloquer la gare pour obtenir plus tôt ?
Pourquoi pas ?
J'en sais rien.
Pourquoi pas ? Tu sais qu'il y a beaucoup de droués qui prennent leur petite voiture et qui vont plus loin, qui vont prendre le train à Marchausée, à Oudan.
C'est quand même compliqué parce que...
Même
compliqué parce que, bon, je veux bien bloquer la gare, mais enfin, il y a des gens qui vont travailler tous les jours. Et voilà. Hein. Alors, mais... voilà, mettre une pression parce qu'on n'obtient pas, à un moment donné, on n'obtient pas satisfaction, pourquoi pas.
Il y a un moment où c'est bon, quoi. Il faut faire quelque chose, c'est sûr. À part ce problème, tu es content du chantier de la gare ? Ça marche bien ?
Heureusement, tout ne fonctionne pas. Et là, on voit bien qu'il y a un vrai problème d'accessibilité et qui fait l'objet de mécontentement. Pour le reste, évidemment, je suis très content. On est en train de moderniser une gare. On va démarrer d'ici la fin de l'année. Ça y est, les procédures ont été faites. On démarre notre parking silo pour 300 voitures. Le parvis de la gare est en cours d'aménagement. On a refait la gare routière. On a refait le passage Saint-Denis pour que les bus, les ambulances qui vont à l'hôpital, etc., puissent passer.
Au lieu de faire tout le
tour
de la ville.
Tout ça est en train d'être fait. Il y a aussi, du coup, des initiatives privées qui ont été prises autour de la gare et qui vont voir le jour.
La résidence Pierre-Julie.
La résidence Pierre-Julie, avec des commerces à rez-de-chaussée, 46 ou 47 logements. Sur l'ancien parking de la rue des Bois-des-Fosses, un hôtel va se construire. Ils ont déposé le permis de construire hier. Voilà, l'hôtel va se faire. 70 chambres là.
Tu peux donner le nom ?
À 3 étoiles plus. C'est un hôtel Ibis. Hein. Ibis, je ne sais plus de quelle catégorie. En tous les cas, c'est du 3 étoiles plus face à la gare. Nous avons fait démolir avec Interface un silo à grains qu'il y avait là. Et là, nous avons en cours un programme de 90 logements qui vont être construits avec logements, bureaux, etc. Le programme n'est pas complètement arrêté. Nous venons de racheter le site Emery Caron. Tout cet endroit-là, le site Emery Caron, vient d'être racheté par la ville. Et nous avons l'intention là aussi d'avoir un programme de logements, de bureaux. Nous allons construire 16 000 m² de bureaux autour de la gare. On a construit une première tranche de 2 000 qui donne l'idée déjà de ce qui pourrait être fait. J'ai lancé un concours d'architectes pour préciser un peu les bâtiments tels qu'ils seront faits. Je serai personnellement au mois de décembre présent au salon d'immobilier d'entreprise à Paris pour présenter sous une forme agréable en 3D ce que pourrait être le quartier Gare Future pour y attirer des investissements privés, des promoteurs. Voilà, donc ça se déroule bien.
Tous ces appartements qui vont être faits, est-ce que c'est du locatif, est-ce que c'est des appartements qui vont être achetés par des propriétaires ou pour louer ou pour habiter? Quel est le standing de ces appartements? Résidence Pierre-Julie, par exemple.
La résidence Pierre-Julie, c'est surtout de l'accession à la propriété. Hein, donc les appartements sont vendus, mais j'en ai profité d'avoir la construction de ce bâtiment au pied de la gare pour faire 9 logements qui vont être achetés par l'office d'HLM pour pouvoir offrir à des internes de l'hôpital, des médecins en stage à l'hôpital, un appartement à proximité de la gare. Et donc il y a 9 appartements qui seront des 2 pièces, 3 pièces maximum, qui vont être réservés à ces médecins stagiaires de l'hôpital pour pouvoir leur offrir, encore une fois, à proximité des dessertes, leur offrir un appartement convenable. là. Ce sont des appartements de bon standing, hein, qui sont destinés à la vente, destinés d'ailleurs aux droués d'abord, hein, en primo-accédant, mais aussi on s'aperçoit qu'il y a à partir d'un certain âge des populations qui ont habité à l'extérieur de la ville et qui aujourd'hui souhaitent revenir dans le centre-ville, dans des appartements confortables.
Et qu'en est-il du site du Clos du Roy, qui donc a déménagé et qui va être converti en appartement de très grand luxe?
Je ne sais pas. Je n'ai pas de.
Il n'y a aucun projet actuellement.
Je n'ai pas réussi, malgré les efforts que j'ai pu faire pour essayer de joindre un responsable propriétaire. J'ai pas réussi à joindre pour savoir ce qu'il voudrait en faire. Bien entendu, en tant que maire, je m'y intéresse. Et je ne sais pas si ce sera des appartements grand luxe. Moi, ça m'a pas été dit. Ou si ce sera toute autre forme. Est-ce qu'ils sont vendeurs de ce bâtiment? Est-ce qu'ils vont le garder? J'ai pas d'informations à ce jour, malgré les demandes réitérées que j'ai pu faire à la société qui possède cet immeuble.
Et quelle société?
Alors c'est lié à celle qui...
Orpea,
la Maison Blanche, qui construit à la Maison Blanche.
Le point de vue de l'immobilier, nous venons de l'aborder. Qu'en est-il maintenant du commerce d'Andreux?
Alors on a, comme hélas beaucoup de villes de France, un vrai problème d'attractivité commerciale dans les centres-villes, voire dans les centres-bourgs, des villes plus petites. Et donc on s'est attaché, c'est la compétence de l'agglomération, on s'est attaché à prendre le problème à bras-le-corps. Nous avons recruté un manager commerce qui se partage entre l'agglomération et la ville de Dreux. Et puis nous essayons d'agir, on connaît un certain nombre de problèmes qui sont liés qui sont liés notamment au prix des locations dans le centre-ville.
Mais dans le centre-ville, il s'agit d'une véritable désertification. Tous ceux qui sont dans le centre de Dreux comptent les boutiques qui sont fermées. Ça devient
souvent on met en cause les grandes surfaces périphériques. Certes, ça y joue, mais il y a surtout aujourd'hui l'évolution très importante du e-commerce, hein, du commerce par internet, les grandes plateformes comme Amazon qui se développent, etc., et qui évidemment et je vois bien les jeunes aujourd'hui, j'ai des petits-enfants qui sont en âge, ils vont pas dans les commerces. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont sur Internet, ils vont jusqu'à, je sais pas comment ils font, ils vont choisir des chaussures sur Internet. Moi, des chaussures, je les essaye. C'est tel aujourd'hui, mes petits-enfants sourient. Oui, exactement. Mes petits-enfants sourient quand je leur dis, bah oui, mais enfin, vous commandez par Internet, si ça vous va pas, on renvoie.
Et
effectivement,
problème,
c'est très facile. Ils sont remboursés ou on leur renvoie ce qui leur va bien. Ça fait énormément de tort. C'est tout le côté humain, commercial, etc. qui fait tort. Bon, il n'y a pas que ça. Et pour autant, il ne faut pas rester à rien faire. Et donc, j'ai mobilisé, il y a maintenant 3, 4, 5 mois, je ne sais plus, j'ai fait une réunion avec les commerçants, ils ont répondu présent, ils étaient 120. J'ai ma collègue de Florence Archambaudière-Leparc qui est responsable pour la ville de Dreux du commerce. On a fait une réunion et on leur a demandé de se constituer en commission et de travailler. Et je leur ai dit, en fonction de ce qui sortira de ce que vous aurez pu penser, on fera les assises du commerce au mois d'octobre. Et la date, je la donne de mémoire, je crois que c'est le 19 octobre, nous allons avoir les assises du commerce à Dreux. Mon objectif, c'est pas de faire le constat de ce que tout le monde sait, c'est-à-dire, et voit les commerces qui dépérissent. On a vu qu'il y a des villes qui, avant nous, ont pris ce problème à bras-le-corps et ont réussi à endiguer la désertion commerciale des centres-villes.
Par exemple
Arras, la ville d'Arras.
Chef-lieu
du Pas-de-Calais. Elle est invitée, d'ailleurs, à venir témoigner de ce qu'ils ont fait pour relancer le commerce.
Ils ont un savoir-faire, une volonté.
Ce qui m'intéresse, c'est vraiment... J'ai assisté, il y a pas loin de 2 ans, aux assises du commerce à Rennes. J'ai voulu y aller pour voir. J'ai eu des lamentations pendant 2 jours, où des témoignages, les uns après les autres, venaient pour dire « nos commerces sont foutus ». Et j'ai dit « bon, moi, je veux pas de ça. Je voudrais, au contraire, témoigner qu'on a des moyens de pouvoir rebondir. C'est pas facile. Hein ?» Et je mettrai beaucoup de... tant que ces assises soient faites, que des propositions des commerçants soient faites. Mais j'ai l'intention aussi, je pense qu'il faut qu'on revoie complètement.
Est-ce que tu as des idées? Enfin, tu as certainement des idées d'ailleurs.
Oui, oui.
Je pense qu'on ne peut plus.
Si demain, il faut prendre le problème d'une manière globale. C'est encore pas détaillé, ça reste encore non pas flou.
Parce qu'il faut les convaincre, les gens, de revenir.
Imprécis dans ma tête, mais aujourd'hui, il faut absolument faire une smart city de notre centre-ville avec tous les derniers cris numériques qui vont permettre aux gens de pouvoir venir, de pouvoir dialoguer sous forme avec le matériel, le mobilier urbain interactif, etc. J'ai l'intention de faire ça. Ça nécessitera que probablement qu'on refasse complètement notre grande rue. Elle a vieilli, je pense que ce sera le moment, en ayant un tel projet que l'on va étudier, je vais étudier rapidement. Mon souhait, c'est de mettre tout ça en œuvre avant la fin de ce mandat, 2020 ou 2021, mais de mettre ça en œuvre avant la fin du mandat, il faut qu'on fasse de notre centre-ville la vitrine moderne, câblée, numérisée du futur. Et ça va nécessiter, je suis allé voir chez le centre de recherche Orange, Châtillon, j'ai pris contact avec les grandes sociétés qui s'occupent de ça, comme Bouygues, comme Vinci, je continue à avoir des partenaires intéressants, des fabricants de mobilier de mobilier urbain, tels que Deco, mais il y en a d'autres aussi.
Ça leur fera une vitrine en plus.
Et donc, voilà, j'ai l'intention d'associer bien sûr Gédia localement, qui s'intéresse à tout ça. Le déploiement du numérique qu'on fait. Je viens de constituer une commission à l'agglomération que j'ai fait animer par Madame Bonhomme, qui est membre du conseil communautaire, maire de Fontaine-des-Ribauds, et qui est très intéressée par le sujet. Elle anime une commission sur les usages du numérique. Très bientôt, j'annoncerai au centre-ville d'Heureux l'installation dans un immeuble de tout ce qui va être les points d'accueil, d'espaces de coworking, des espaces d'accueil de start-up, des espaces de développement de l'école du numérique qu'on a commencé avec la chambre de commerce et l'industrie. Voilà, donc on va avoir tout ça au centre-ville avant 2020. Et ça, ce sera de nature.
Ou 2021, t'as un petit sursis pour remettre tout ça.
Je sais rien encore, mais on verra bien. Ou 2021. Mais je pense que on ne peut pas voir redynamiser le commerce sous le seul angle des propriétaires. Certes, qui commencent d'ailleurs à être plus raisonnables avec nos interventions, on peut pas avoir, ou des surfaces qui sont pas adaptées à ce qu'ils souhaitent, etc. Je crois qu'il va falloir frapper fort si on veut, à un moment donné, redonner cette dynamique au commerce local. Et j'ai l'intention de le faire avant la fin de ce mandat.
Il faut voir ça également en partenariat avec les propriétaires des lieux.
Bien sûr.
Et qui décident, eux, des baux et des loyers qu'ils appliquent.
Ça va nécessiter beaucoup de mobilisation, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de partenaires. Quand je veux faire du centre-ville la vitrine du futur par l'utilisation du numérique en direction du commerce, on a la chance d'avoir à Dreux une entreprise qui fabrique les tablettes géantes là que l'on trouve dans les McDo, qui s'appelle Humilab, et qui fabrique, ce sont des jeunes ingénieurs, des start-up, et qui fabriquent, ils sont installés chez nous à la radio, ils fabriquent des vitrines interactives. Aujourd'hui, on peut ne pas rentrer dans un magasin pour savoir ce qu'il y a dedans, à quel prix, avec quel stock, etc.
Le sourire de la vendeuse.
Mais ça manquera. Ou alors, il faudra qu'elle ait un autre rôle. Mais voyez, il y a énormément de choses qui se développent. De l'information numérisée sur des grands panneaux extérieurs dans le centre-ville, etc., etc. Il y aura plein d'idées comme ça que je voudrais mettre en œuvre pour en faire avec les partenaires, encore une fois, la véritable vitrine du commerce du futur pour venir contrer tout ce qui se fait par ailleurs sur les centres commerciaux périphériques qu'on n'empêchera pas de vivre, continueront à vivre, mais pour venir concurrencer aussi le e-commerce. Par exemple, je suggérais que, puisque le e-commerce fonctionne bien, notamment chez les jeunes, il faudrait qu'on arrive à mettre, quand on a choisi un produit, la référence locale de qui peut le vendre. Pourquoi pas?
Une très bonne idée, bien sûr.
Ça devrait pouvoir se faire. Bon, après, moi, techniquement, je suis pas rentré dans toutes les techniques, je suis pas compétent pour, mais l'idée globale, c'est celle-là. C'est de dire, il faut qu'on change de braquet avec les commerçants, il faut absolument tout remettre en question, se donner des moyens modernes, les moyens d'aujourd'hui, qu'attendent, dans l'enquête qui a été faite par l'Union des commerçants, il ressort, et j'ai été moi-même surpris. On se dit, les jeunes, ils viennent plus au centre-ville. C'est pas vrai.
Si, ils viennent.
Ils viennent. Ils viennent. Il y a quelques commerces attractifs qui se sont installés au centre-ville, qui attirent les jeunes. Mais ils voudraient bien avoir accès à plus que ça. On va leur donner satisfaction.
Le choix. Et évidemment, ça passe par une restructuration du centre de la Grande Rue.
Oh, ça va aller au-delà de la Grande Rue. J'ai l'intention de faire une étude sur un périmètre d'hypercentre qui va prendre en
avec
compte...
Avec la rue Parisie.
La rue Parisie, la rue Rotrou qui ne marche pas. On n'a jamais réussi à la remettre commercialement en route. Ben, on va réfléchir.
Rue Rotrou, rue Parisie, Grande Rue.
Tout l'hypercentre. Peut-être aussi en repensant un parcours Chalon. Hein, qui au fur et à mesure de fermeture, etc., n'existe plus vraiment. Il faut qu'on sorte en ayant l'attractivité commerciale uniquement dans la Grande Rue. Il faut vraiment qu'on élargisse le cercle par un parcours Chalon qui reste à imaginer, qui reste à voir, qui reste à reconstituer dans le temps. Ça se fera pas en 6 mois.
Avec
Mais
la
s'il
place
y a une
Métézo,
volonté,
la place,
voilà,
la
il faut
place
absolument
Mirard
revoir
marché,
la place Métézo,
oui.
Qui nous permettra peut-être de redynamiser la rue Rotrou. Il faut qu'on revoie
la rue
Saint-Pierre,
Port-Chartraine.
Il faut revoir la rue Parisis, qui fonctionne sur un tiers de son parcours, puis après qui est mort, etc.
Hypercentre.
On revoit tout ça, tout l'hypercentre. On va déterminer un périmètre d'hypercentre et on va faire plancher là-dessus des techniciens, des spécialistes, des partenaires pour essayer de sortir... Rapidement, hein, je voudrais que, au plus tard, à mi-2018, le projet soit sur la table de façon à ce que, on puisse le mettre à exécution dès le deuxième semestre 2018.
Je compte sur toi, Gérard, pour revenir derrière ce micro, nous présenter tout ça.
Oui, volontiers, volontiers. Il faut tout
dès
le temps.
Que tu le pourras.
Vous savez, nos collectivités, et moi je m'en rends compte parce que je me déplace beaucoup. Je viens d'être sollicité pour rentrer au conseil d'administration de Ville-de-France. Et ça m'intéresse pas parce que j'ai pas de boulot et que je, etc. Il faut aller tirer profit des expériences ailleurs. Il faut s'ouvrir sur tout ce qui est possible de faire, de voir, de, et à partir de là, en faire profiter, à partir de là, en faire vraiment profiter à nos commerçants. Et donc, moi, mon intention, c'est vraiment on ne va pas réinventer le monde. Nos villes sont en concurrence. Quelle est la ville qui ne veut pas être plus attractive que l'autre ? Je vois bien, moi, j'entretiens de bonnes relations.
Les gens qui arrivent choisissent.
Avec mon collègue de Chartres, avec mon collègue d'Evreux, avec, etc. Mais on se bat chacun pour que on est la ville la plus attractive. Je salue d'ailleurs tout ce que le maire de Chartres a pu faire pour transformer également sa ville. C'est extraordinaire. Évreux a 10 ans de retard, pour des raisons historiques dessus. Mais je rencontre régulièrement le maire d'Évreux, qui est assez admiratif pour ce qu'on fait à Dreux ou dans l'agglomération, et avec lequel je suis
prêt... Ça fait plaisir, ça, déjà,
ben oui,
non?
Je suis prêt à coopérer avec lui, pour que lui aussi... Mais il a l'idée, il a un grand projet qu'il m'a montré juste avant les vacances sur déjà repenser son centre-ville, ce qui est actuellement en exécution. Voilà, il faut bouger, il faut aller de l'avant. On est un peu, quand on est dans une ville, on est un peu comme dans une entreprise. Il faut en permanence avoir l'idée, avancer, avoir la volonté d'investir. C'est pour ça que je reviens au début de la conversation. Il faut pas que l'État nous supprime ses moyens. Moi, si j'ai plus les moyens de rendre que des services, je ne pourrais pas investir pour que la ville soit compétitive et attractive.
Se transforme.
Voilà, donc...
Un autre point noir que je voudrais évoquer, l'entrée dans la ville en venant de Chérisy. Ce rond-point qui nous a été vendu, entre guillemets, en disant « c'est formidable, vous allez voir, plus de problèmes et tout ». Et en réalité, ça n'a rien changé.
La réalité, c'est, non seulement ça n'a rien changé, mais ça a créé des problèmes. Puisque
ah,
maintenant, il y a des
avec...
bouchons. Ben, c'est une catastrophe. Écoutez, je ne veux pas charger l'État en tant que tel. J'ai des relations tous les jours avec le préfet, avec ses services, avec etc. Mais quand même, il y a des choses qu'on a du mal à admettre. Quand ils ont fait ce giratoire, alors il y a des gens, des ingénieurs...
Décidés par la DDE ?
Ben oui.
Les ingénieurs de la DDE,
Carrefour,
ça a changé de nom.
La DDT maintenant, Direction des Territoires. On nous a invité à des réunions, mais quand tout était fait, nous avons fait, nous les élus, des réflexions sur les dysfonctionnements tels qu'ils avaient prévus, les dysfonctionnements ça pouvait apporter. On n'a pas été entendus.
Autrement dit, la DDT... toute puissante.
Ben, c'est eux qui payent, donc qui commandent paix ou qui payent
oui,
commande.
C'est quand
mais
même, ils ne doivent pas te demander ton avis parce
mais
qu'ils
si,
font en fait
mais,
des choses sur ton territoire.
Et
si t'en veux pas, il se passe quoi?
Ils sont venus surtout nous informer. Voilà ce qu'on va faire. On a fait nos réflexions. J'étais pas tout seul puisque les maires environnement, Chérisy et autres, Luret et tout, on était tous invités à cette réunion. Et toutes les réflexions qu'on a faites allaient dans le sens du doute du bon fonctionnement de ce giratoire. Voilà.
Et ça ne les a pas interpellés
quelque
part.
Et de ces équipements. Il n'y a pas de lumière, on a un trou noir, il n'y a pas, etc. Alors on nous dit, ah, mais maintenant, nous, l'État, on fait des aménagements, mais on ne prend plus l'éclairage. On a fait des travaux, on a bloqué, on a embêté tout le monde dans le secteur pendant un an. Aujourd'hui, on nous dit, ah ben oui, mais on a le pont qu'il faut qu'on refasse aussi. On n'aurait pas pu le faire en même temps. Et t'as vu qu'on est encore bloqué là pendant 6 mois jusqu'à la fin de l'année, parce qu'il y a nécessité de refaire un passage.
Au Guéosanne.
Enfin, je veux pas taper, mais ça marche pas. Mais revenir en arrière aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Ah, c'est tout, et c'est fait.
Et là, on en a encore pour 6 mois, autrement dit.
Non, jusqu'à la fin de l'année. Là, ça va réouvrir avant la fin de l'année pour le pont qu'ils sont en train de faire, qui n'arrangera rien par rapport aux observations qu'on a faites, hein. Puisque là, c'est autre chose. Il y avait une espèce d'ogive en métal qui s'effondrait. Ils ont refait par-dessus un pont en béton. Voilà. Donc ces travaux-là vont être finis d'ici la fin de l'année, et là, ils vont réouvrir normalement. Mais il n'y a pas de travaux consécutifs aux désagréments qu'on a constatés.
Juste un mot alors pour la sécurité dans la ville, avant de conclure cette seconde émission, il y en aura d'autres bien entendu, chers auditeurs, aussi souvent que monsieur le maire voudra bien venir.
Il y a tellement de sujets.
Il y a beaucoup de sujets, on va recommencer donc bientôt, tu me le confirmes?
Oui, à disposition, quand vous m'inviterez, moi je suis disponible et puis on pourra discuter de beaucoup de choses.
Avec ces drames récents, est-ce qu'il y a un changement dans le maintien de la sécurité? Est-ce que ça s'arrange? Est-ce que nous avons un nouveau commissaire?
Alors, d'abord, nous sommes dans un état d'urgence, avec des dispositifs qui sont sous la responsabilité des préfets, des dispositifs d'État sous la responsabilité des préfets. De temps en temps, vous voyez des patrouilles militaires, c'est pas parce qu'il y a un danger subi ou quelconque qui est arrivé à Dreux, c'est parce que, et c'est prévu, dans le cadre de la sécurisation globale, face au risque d'attentat que l'on a, etc. Et bien entendu, on a un certain nombre de réunions qui traitent de ce problème. On prend un certain nombre de dispositions particulières au cours de manifestations pour éviter les voitures telles qu'on, enfin les voitures ou les camions tels qu'on voit, camions assassins tels qu'on a vu à Nice, etc. L'État a tiré les conséquences de tout ça et du coup nous oblige, mais à juste titre, hein, à se protéger de tout ça. Sur le pont Jean-Yot, récemment, on a mis des blocs en béton, des voitures en travers pendant qu'il y avait la manifestation de la fin des animations d'été pour les enfants. Donc tout ça, c'est rentré aujourd'hui dans les mœurs. Dès qu'il y a une manifestation publique, la semaine prochaine, nous avons la Saint-Denis. Sur la Saint-Denis, là aussi, hein, il y a des réunions qui se font avec les services de l'État et qui, en fonction de ce qu'on a prévu, on prend les dispositions de barrages de rue pour empêcher des véhicules béliers de pouvoir rentrer et de pouvoir commettre ce type de délit. Et puis, il y a après tout ce qu'on peut faire. Hein, et là, c'est vrai que nous avons un nouveau commissaire. J'ai, comme tous les autres commissaires, bien entendu, l'occasion de travailler quasiment au quotidien avec, soit directement, soit par l'intermédiaire. J'ai une élue, une adjointe, qui est responsable de la sécurité publique, pris dans le sens général, qui est en lien journalier avec le commissariat. Nous avons des conventions entre la mairie et le commissariat, qui fait quoi, dans quelles circonstances, etc. On travaille très bien. Il n'y a pas de guerre de police à Dreux. Il y a une police, il y a une gendarmerie, il y a des polices municipales qui sont mobilisées pour assurer la tranquillité et la sécurité des Drouais. Voilà ce que je peux dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exposé à quoi que ce soit. Nos ATSEM pour les services des écoles sont mobilisés pour avoir une attention particulière aux entrées, aux sorties d'école, ou des choses là. Bref, on essaie de faire le maximum. Tout risque mesuré est pris en considération et il y a des réactions et des dispositions prises. Alors, on se réunit régulièrement. On échange aussi des informations qui évidemment restent confidentielles hein, sur des personnes qui peuvent être potentiellement dangereuses. Je rassure les droués, on n'en a pas tant que ça, c'est les fameux fichiers ESP. On en a quelques-uns, mais voilà, on travaille dans la confidentialité sur tout ça pour assurer encore une fois la sécurité et la tranquillité de nos citoyens.
Gérard, merci beaucoup d'être venu dans nos studios de Radio Grand Ciel. Bien sûr, nous referons d'autres émissions pour vous, chers auditeurs. Je suis certaine que ça vous a passionné. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir. Merci à Pierre Écart qui enregistre et réalisera ces émissions. Gérard, au revoir.
Au revoir.
Et
merci.
À bientôt.
Merci de l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.